Pour la nouvelle saison de la BFM Academy, Laure Clausier est partie à la recherche des entrepreneurs de demain. Ils ont été plus de 800 à présenter leur candidature à Niort, Lille, Lyon et Paris. Des 6 projets sélectionnés, il ne reste plus ce soir que 3 finalistes. Et le moment est venu de désigner le vainqueur de la 16e édition de la BFM Academy. Qui recevra ce soir le prix tant convoité de l'entrepreneur le plus audacieux, le plus inspiré? Ce soir, il n'en restera qu'un. Et c'est à vous de voter sur bfmacademy.fr.
Bonjour à tous et bienvenue dans la grande finale de la BFM Academy, saison 16. Ils y croient, mais vous, est-ce que vous croyez en eux? On vous attend sur bfmacademy.fr pour voter pour nos 3 candidats. BFM Academy, c'est l'émission la plus optimiste de la télévision et de la radio. Vous allez découvrir 3 entrepreneurs de talent. Ils étaient plusieurs centaines à envoyer leur dossier. Ils ont passé des castings dans toute la France. Ils ont été coachés, éliminés. Ils ne sont plus que 3 et ce n'est absolument pas fini. Il y a encore des épreuves. Aujourd'hui, il va y avoir les questions qui tuent. Notre grand témoin, Ty Chris, qui est champion de roller et aussi entrepreneur à succès, va donner son œil sur chacun des business de nos candidats. Et puis, il y a bien sûr cette séquence que vous connaissez, avocat, procureur. Nos coachs vont se transformer en attaquants. On y va, vous faites connaissance avec nos 3 candidats. Ils rentrent en scène, David Monnier de Fonto, de Vivo, Margot Coréard, Diagram Technologie et Lucas Guébard, Moby Travel. Bonjour à tous les 3, la grande finale. On y est pour cet exercice difficile, pas de public cette année. Crise sanitaire évidemment oblige, mais ça ne fait rien. On va quand même passer ensemble les épreuves. David Monnier, Fonto de Vivo, purificateur d'eau qui permet de fabriquer 2 litres d'eau par minute avec de l'eau sale. Un marché de 150 millions de personnes par an qui sont impactées par les urgences humanitaires. David, vous avez passé le casting à Niort. Est-ce que vous êtes prêt à changer le monde, mais avec des arguments business?
Oui. Enfin, je veux dire, ça s'appelle BFM Business ici, et c'est pas un hasard si on est là. C'est parce qu'on est un business.
Margot Coréard, bonjour. Vous portez le numéro 2. Je savais même pas qu'une machine pouvait diriger d'autres machines, prédire les pannes. Vous avez créé un logiciel de maintenance prédictive. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, Margot, mais la dernière femme qui a gagné la BFM Academy, c'était il y a 3 ans. Depuis, elle a levé 30 millions d'euros. Et en plus, vous êtes le seul business B2B prêt à être clair, à bien expliquer.
C'est le challenge, tout à fait, oui.
Notre troisième candidat, Lucas Guébard. Lucas, vous avez 24 ans, vous représentez Moby Travel, un membre de votre famille, de votre entourage, ne pouvait pas partir en vacances. Vous avez créé pour lui qui avait un handicap une entreprise, c'est de là qu'est partie votre idée. Lucas, vous êtes le plus jeune, est-ce que c'est un atout ou un handicap?
C'est un atout, on va leur montrer que le talent n'attend pas le nombre d'années.
Bien sûr, vous aviez préparé votre réponse. Je sais que vous êtes prêt à en découdre, notamment sur les questions de l'âge. Il y a certains candidats qui trouvent que c'est pas juste d'être trop jeune. Donc, je vous dis pas lesquels. On va faire connaissance avec vos coachs parce que tout au long de cette saison, vous avez été accompagnés par des coachs qui ne vous ont jamais éliminé. On a donné cette lourde tâche à d'autres gens. Eux, ils vous ont juste poussé, accompagné. On va rentrer dans le détail de leur travail ensemble. Des coachs qu'on connaît depuis longtemps dans BFM Business parce qu'ils ont accompagné d'autres candidats les années précédentes. On les découvre et après on les cuisine.
Pour la 16e édition de BFM Academy, ce sont 3 mentors hors normes qui ont coaché les candidats dans la compétition. Philippe Pouletti, c'est l'homme de Carmat. L'image de l'entrepreneur médecin est indissociable de celle du premier cœur artificiel. Entrepreneur, investisseur, depuis une trentaine d'années, il est à l'origine de nombreuses sociétés comme Carbios, Abivax et beaucoup de jeunes entreprises. Il dirige le fonds d'investissement Truffle Capital.
Ça me plaît beaucoup de coacher des entrepreneurs, on passe plus de temps avec eux, on les aide à réfléchir pas seulement à leur business plan d'aujourd'hui, mais au business plan de demain, à mettre en avant leurs atouts et à reconnaître leurs faiblesses éventuelles, la concurrence. Donc moi, ça me passionne.
Il a accompagné Lucas Guébard de Moby Travel. Pour Fabrice Marcella, c'est la 6e saison de BFM Academy. Chaque année, le maire du village Baïséa noue des liens avec les candidats et les suit dans leur business bien après le concours. Il faut dire que le développement de start-up, c'est son travail au quotidien. Depuis 2013, il est au contact au jour le jour avec une centaine d'entreprises qu'il accompagne au sein de l'incubateur.
Alors, être mentor dans cette nouvelle aventure, c'est plus finalement un rôle d'accompagnateur. D'ailleurs, c'est mon job du quotidien. C'est un rôle de proximité extrêmement forte avec les entrepreneurs pour leur permettre de passer chacune des étapes du concours, leur permettre de plus facilement réussir les challenges qui leur sont fixés.
Il est le mentor de Margot Coréard, cofondatrice de Diagrams Technologies. Virginie Calmels n'est pas facile à résumer en quelques secondes. Elle a eu plusieurs vies professionnelles et connaît très bien le monde de l'entreprise. C'est d'abord dans les médias, en dirigeant de grands groupes dans le secteur audiovisuel, qu'elle a construit sa carrière avant de rejoindre la politique. Entrepreneuse, elle crée l'école Futurae dans le domaine des industries créatives et du marketing digital. Et elle est désormais présidente du conseil stratégique du groupe WeCare.
Formidable cette année qu'on est plongé dans le vif de l'action et dans le fonctionnement même de l'entreprise. Et c'est passionnant.
Et c'est David Monnier, cofondateur de Fonto de Vivo, qui a bénéficié de ses précieux conseils. Trois mentors aux profils différents, avec un seul but, mener leur candidat à la victoire.
Voilà, vous avez fait connaissance avec nos mentors et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement parce que cette année, on leur a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Un grand merci à eux. Comme dans toutes les startups, on fait face à un imprévu dans la BFM Academy. Ça nous arrive aussi à nous. Virginie Calmels ne peut pas être présente physiquement avec nous aujourd'hui. On l'a remplacée au pied levé par une coach qu'on connaît bien aussi à la BFM Academy. C'est Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour, fondatrice de The Artist Academy. Evelyne, à la BFM Academy, on vous connaît puisque vous avez gagné la BFM Academy il y a quoi, un peu plus de 10 ans maintenant?
2009.
Alors c'était pas avec The Artist Academy, c'était avec Booster Academy que désormais vous avez vendu, vous vivez donc aux Bahamas et vous ne faites plus rien.
Oui, mais vous avez vu que je reviens rapidement quand on m'appelle des Bahamas, hein, donc c'est rapide, hein, Bahamas.
Donc finalement
Paris.
Vous n'êtes pas si loin. Vous remplacez Virginie, un grand merci à vous. Virginie a voulu nous laisser un message, on l'écoute et on continue avec nos coachs.
Bonsoir Laure et bonsoir à tous. Tellement désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais merci à Evelyne d'avoir accepté de me remplacer et de coacher David, car je mets beaucoup d'espoir dans Fonto de Vivo. David a fait un parcours remarquable, a incroyablement progressé de coaching en coaching. J'ai particulièrement apprécié ma mission auprès de lui et aussi auprès de Easy Blue. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse finale. En attendant, bravo à chacun d'entre vous, car vraiment, on a eu des dossiers de très grande qualité cette année. Mais bien évidemment, un grand coup de cœur pour Fonto de Vivo, le purificateur d'eau qui sauve des vies, avec David Monnier, qui est un entrepreneur tellement attachant et engagé. Bonne finale à tous.
David, vous changez donc de coach pour ce soir. Virginie, pendant toute cette saison, elle nous a dit, David, son truc, c'est la com. Il faut qu'il bosse la com. Est-ce que vous l'avez écouté?
Je l'ai écouté. Et puis maintenant, Fonto de Vivo a deux fées qui se penchent sur son berceau. Une qui est pas avec nous ce soir, mais qui nous regarde, j'espère, je crois. Elle vient m'envoyer un petit message avant l'émission. Et puis merci, un grand merci à Evelyne qui est la seconde fée. Et j'espère que ce soir, ça va me porter chance.
Evelyne, l'humanitaire, c'est pas forcément au départ votre marché, votre spécialité. Vous avez donc David.
Mais alors franchement, je trouve que c'est le meilleur candidat que j'ai jamais eu. Il va sauver, enfin, on va voir, c'est en milliards de vies. Mais franchement, enfin, merci d'être là déjà, merci d'exister. Je suis très très heureuse de le soutenir ce soir.
Vous l'auriez choisi dans une autre émission.
Mais direct. Non, franchement, j'ai beaucoup de chance par rapport à tous les
deux. Ah, bien sûr, à nos pauvres autres coachs qui n'ont donc pas du tout de chance, désolée.
J'ai beaucoup appris auprès d'Evelyne depuis ces dernières années, vraiment.
Fabrice Marcella, vous accompagnez Margot. Margot Coréard, Diagram Technologie. Bon, comme dirait Evelyne, pas de chance. Non, je plaisante.
Une chance pour qui? Enfin,
bah pour vous, alors, avec notre ingénieur de la bande.
Oui. En tout cas, Margot porte une entreprise, en tout cas, qui répond à de véritables problématiques, qui s'inscrivent parfaitement dans les enjeux stratégiques d'aujourd'hui, qui consistent notamment à faire de la relocalisation de l'industrie. Et on s'en est tous rendu compte au cours de cette crise sanitaire, de cette dépendance que l'on avait vis-à-vis de pays extérieurs. On a manqué de tout, de médicaments, de masques, de respirateurs. Et le projet de Margot, donc Diagrams Technologies, s'inscrit bien dans cette démarche-là. Et le plan de relance aujourd'hui, notamment de l'État, des 35 milliards d'euros qui sont investis par l'État pour travailler sur cette relocalisation
industrielle. Et il est fort, hein. Franchement, il a progressé.
J'ai regardé toutes tes émissions avant.
Ah ouais, franchement, là, bravo.
N'importe quoi. Margot, c'était un bon coach, Fabrice?
parfait. Il va nous aider, enfin m'aider en l'occurrence, à peaufiner le discours, à aller montrer les arguments pertinents. Donc un grand merci pour ton regard d'expert.
En général, après, Fabrice, il intègre les startups au village, il les fait bosser, enfin...
J'y suis déjà au village.
Ah bon, ben bah voilà, voilà. C'est déjà fait, donc il faudra trouver autre chose, quelque chose de personnel, peut-être.
Non.
Philippe Pouletti, vous savez, Lucas Guébard, Moby Travel, notre junior de la bande, même si ça n'est pas un argument, selon votre voisin.
C'est le junior à 23 ans qui a une idée exceptionnelle de démarrer Moby Travel dédié aux 5% de handicapés qui ont le droit, comme les autres, de partir en vacances. Mais il a la maturité d'un entrepreneur très aguerri. Donc c'est pas seulement une bonne idée, un peu comme ses concurrents. Ça va être une entreprise qui peut être un leader européen.
Lucas, je disais tout à l'heure, nos coachs ont beaucoup travaillé. Vous avez été beaucoup coaché. Philippe, il vous a apporté quoi ?
Il m'a apporté une belle mise en relation qui va nous permettre de lancer MobyCare dans les prochains mois. Et
ah
en
oui.
plus de ça, beaucoup d'accompagnement. Et malheureusement pour les autres candidats, ça va nous permettre de gagner aujourd'hui.
Vous avez déjà fait du business ?
On est en train.
D'accord, personne ne perd de temps.
Oui, on vérifiera ça tout à l'heure.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une autorité. Vous qui avez presque un regard extérieur, Evelyne, cette saison de la BFM Academy, où moi je suis arrivée dans l'épisode précédent, j'avais plus rien à leur conseiller. C'est quand même assez étonnant. On arrive à une certaine maturité quand même chez nos start-upers.
Oui, là vous les avez quand même bien conseillés pendant plusieurs émissions. J'ai vu toutes les émissions ce week-end. Et là, ils doivent être parfaits. Normalement, ils doivent être excellents. Ils sont beaux. Ils savent répondre à toutes les questions. Vous leur avez déjà posé tout. Donc nous, il a fallu quand même qu'on se creuse la tête pour ce soir.
C'est de plus en plus difficile, Fabrice, de trouver des questions pièges.
Ah, c'est de plus en plus difficile parce que le niveau est toujours de plus en plus important. En tout cas, j'ai trouvé que cette année, j'étais dans un rôle plus confortable que les années précédentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas eu à éliminer qui que ce soit. Je vais tout faire pour en éliminer deux ce soir, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, on était dans un rôle plus d'accompagnateur et de qualification de nos candidats auprès des jurys de professionnels qu'on a eu à rencontrer au cours des différentes émissions précédentes.
Philippe, un mot sur ce cru ?
Chacun est une entreprise intéressante, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'idée pionnière, l'impact sur les clients, la société, la capacité à grandir, à devenir un leader. Donc je crois que les trois ne sont pas égaux.
T'as bien décrit Margot, c'est bien.
Philippe, je demandais le bilan de la saison en fait.
Le bilan de la saison, on le verra ce soir.
Vous avez gagné l'année dernière avec Meditech.
Absolument,
qui a gagné la saison 15. Mais on va bien sûr, vous venez en gagnant.
Grâce à Lucas ce soir. Mais c'était très intéressant d'être coach. À moi, ça m'a appris beaucoup. Et j'espère que Lucas, effectivement, en bénéficiera un petit peu.
Bon, eh bien, on va rentrer dans le dur de notre cérémonie. Je vous rappelle que vous votez sur bfmacademy.fr. Le candidat numéro 1, David Monnier, Fonto de Vivo. Candidate numéro 2, Margot Coréard, Diagramme Technologie. Candidat numéro 3, Lucas Guébard, Moby Travel. Ils attendent vos votes. Et puis, vous réagissez avec le hashtag bfmacademy. C'est un hashtag, il n'y a pas de point .fr, c'est BFM Academy, tout court. On va passer à notre séquence tant attendue et si difficile, avocat-procureur.
BFM Academy, avocat-procureur.
Avocat-procureur, c'est très simple, ça fait des années que ça se pratique dans la finale de la BFM Academy. Les coachs si gentils, enfin pas tous parce que Philippe Pouletti a commencé d'être un petit peu méchant, mais se transforment en procureurs et leurs coachs vont les défendre. Ils vont passer chacun leur tour, ils ont 10 minutes où ils vont être attaqués, ils vont devoir répondre, ça ne va pas être simple. Mais avant, on va faire connaissance un tout petit peu plus avec nos entrepreneurs et aller voir comment ils travaillent, leurs associés, leur quotidien, leur bureau. On commence avec évidemment le numéro 1, David Monnier, Fonto de Vivo. On part à Nantes.
Fonto de Vivo, c'est une entreprise sociale qui développe des solutions de purification d'eau durable et économique pour répondre aux défis sociaux et écologiques de l'humanité.
Salut, c'est David et puis aujourd'hui je vous parle de Nantes depuis nos bureaux Fonto de Vivo et puis je vais vous présenter mon associé.
Bonjour, moi je suis Anthony Caillot et du coup notre ambition avec les purificateurs Oriza, c'est de donner accès à l'eau potable pour tous et partout dans le monde.
Après 3 ans de recherche et développement, ils ont fait breveter le purificateur à eau Oriza qui permet de fournir à chaque famille en situation d'urgence une solution pour purifier instantanément 2 litres d'eau par minute. David Monnier et son cofondateur sont persuadés d'aller dans le sens de la marche, épaulés par une équipe de 5 personnes qui partagent la même ambition.
Je suis ravie de pouvoir participer à cette cause.
qui permet aux pays qui sont dans le besoin de pouvoir leur offrir de l'eau potable. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir y participer de A à Z sur l'assemblage de la pompe.
David Monnier, Fonto de Vivo, le candidat qui devrait normalement être accompagné par Virginie Calmels. Virginie Calmels, présidente et fondatrice de son école Futurae, c'est le nom de l'école de Virginie. Virginie, on l'embrasse et on confie David Monnier directement à Evelyne Platnik-Cohen. Je sais qu'elle nous regarde, Virginie, qu'elle vous regarde. Je ne vais pas vous mettre un peu la pression, David, soyez bon. C'est parti, on y va pour une séance de questions-réponses. On commence avec Fabrice.
Tout d'abord, bravo pour votre storytelling. On ne peut qu'adhérer à votre concept qui consiste à finalement permettre à 2 milliards de personnes qui manquent d'eau de pouvoir boire. Toutefois, vous n'êtes pas une ONG, vous êtes une entreprise. Mm-hmm. Et êtes-vous sûr que ces 2 milliards de personnes ont les moyens aujourd'hui d'acheter votre... comment s'appelle déjà, un purificateur. Voilà.
Je suis absolument sûr du contraire. Donc voilà, ça c'est.
Donc comment allez-vous gagner votre vie? Vous êtes une entreprise et pas une ONG.
On a deux cibles pour l'instant. On a cible gouvernement, d'une part, comme on a vu des images de purificateurs qui partaient en Colombie avec le gouvernement colombien. Et puis cible des ONG. Et dans les deux cas, ce sont les ONG et les gouvernements qui vont pouvoir distribuer gratuitement aux gens qui sont dans le besoin. On parlait de 150 millions de personnes qui tous les ans sont impactées par des désastres humanitaires. Donc voilà.
On a également les fondations, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bill Gates a sa propre fondation. On vient de voir un très bel entrepreneur français chez Wonderbox qui vient de monter son association en mettant 800 millions d'euros pour ce type de sujet. D'ailleurs, je crois que tu as vendu à...
En fait,
Bill Gates comme partenaire, c'est ce que j'entends.
C'est le concours de mauvaise foi.
Oui, même pour l'avocat.
Sans avoir Bill Gates, il y a une petite société qui s'appelle Capgemini Europe d'ailleurs, qui soutient ce que l'on fait et qui nous aide à distribuer des purificateurs via des ONG qui sont parmi nos partenaires.
Alors concrètement, ça veut dire combien de clients déjà de votre purificateur, combien ont été vendus aujourd'hui? Concrètement, ça représente quel volume?
4000 purificateurs depuis le début de l'année, parce que c'est à peu près, le Covid nous a retardé un petit peu dans notre lancée de marché. 4000 purificateurs cette année sur à peu près une dizaine de clients. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a en ce moment.
Et donc puis, c'est pas mal.
Et puis, je tiens à le signaler, parce qu'on est sur BFM, et puis on a eu, aujourd'hui, je suis venu plutôt à Paris, j'ai eu mon premier déjeuner BFM Academy, avec un client qui nous a contacté parce qu'il nous avait entendu sur BFM Radio. Donc voilà, les clients arrivent.
Est-ce que tu peux décrire ton client? Qu'est-ce que tu as vu à midi?
Moi, je peux décrire mon client, 1m75, brun. c'était quelqu'un qui a sa famille en Afrique, dans un pays africain, et qui a monté des associations ici en France et qui cherche à aider ses les gens dans le pays dans lequel il habite également.
Philippe.
Donc Fabrice est beaucoup plus méchant que moi parce qu'il me disait que Virginie n'était pas là parce qu'elle avait essayé l'eau de la Seine avec le purificateur. Mais je n'en crois rien.
C'est vrai que Virginie avait promis de boire de l'eau sale. Oui. C'est vrai.
Mais vous savez que les ONG ou les gouvernements, pour le même budget, vont essayer de distribuer le plus de produits au plus grand nombre. Vous êtes d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord, mais allez-y.
C'est-à-dire que...
C'était une question.
Votre brevet que j'ai regardé, il ne va pas empêcher beaucoup d'imitateurs, surtout si les produits sont produits en Chine et vendus en Afrique, de vous imiter. Donc bravo pour être pionnier, mais je crains que dans 2, 3, 4 ans, vous ayez beaucoup de produits génériques vendus très peu chers et vous, entreprise, vous aurez beaucoup de mal, je pense, à croître, après avoir été le pionnier.
Alors, différentes choses. D'abord, le très peu cher, nous, on peut atteindre le très peu cher parce qu'on est réparable. Donc, on est réparable sur une durée de vie de 10 à 12 ans, ce qui fait qu'on a un produit qui devient extrêmement peu cher, qui va être dur à concurrencer, même pour des produits qui sont fabriqués en Asie. Pionnier, on va le rester parce qu'on travaille déjà sur la R&D, on a des temps d'avance sur les prochains produits qui arriveront demain.
Quel est le budget Crédit Impôt Recherche sur cette année?
Je ne peux pas vous dire combien on a repris. Non.
À peu près.
Je ne vais pas vous le dire parce que je ne le connais pas. Donc, mais en fait, je sais combien on a récupéré de crédit impôt recherche cette année, Philippe, mais ce n'est pas des choses que vous diriez à l'antenne et moi, je ne le dirai pas en tout cas.
Beaucoup ne donnent pas leur chiffre, Philippe.
En tout cas, on ne peut pas reprocher aujourd'hui sur BFM Business à un entrepreneur de ne pas entreprendre parce qu'il a peur de se faire piquer son business par les Chinois.
Non, je l'ai félicité.
D'accord,
mais
on va commencer
par ça. Résister aux Chinois, c'est l'innovation, la protection intellectuelle et garder des prix qui permettent d'avoir des marges.
On est d'accord, c'est nos objectifs depuis le début, donc on est en plein dans ce que vous décrivez. Donc j'ai pas de problème.
Vous avez commencé par ça, vous n'étiez pas d'accord avec Philippe?
Je suis généralement pas d'accord avec Philippe, quoi qu'il dise.
Sauf si j'étais tombé sur vous pour être votre coach. Mais...
Ah, évidemment, là, on aurait été d'accord.
En tout cas, 4 000 produits vendus sur une première année, c'est quand même spectaculaire pour une entreprise. Je retiens ça, moi, je retiens les 4 000. Je dis bravo.
J'aimerais revenir sur l'avance, semble-t-il, que vous avez sur votre purificateur. J'ai l'impression, et je ne suis pas le seul à le ressentir, qu'il n'y a pas de réelle innovation dans le produit que vous proposez. Pouvez-vous nous la décrire un petit peu plus, cette innovation ?
L'innovation, c'est d'abord un produit qui dure dans le temps, donc qui a été conçu sans obsolescence programmée, ce que très peu de gens font. On parlait des produits asiatiques qui sont rarement faits pour sans obsolescence programmée. Donc ça, c'est innovant. On a un produit qui est entièrement conçu pour être compatible avec les meilleurs standards d'eau potable, ce qui est rarement le cas, et les gens utilisent souvent des produits en ce qui concerne le traitement de l'eau qui sont hors cadre des références en ce qui concerne en tout cas les produits français et européens. Voilà, j'ai oublié le début de votre question.
Quelle est l'innovation que vous portez ?
L'innovation, encore une fois, elle porte essentiellement sur le fait qu'on va avoir un produit qui va faire ce que disait Philippe, un produit qui est très peu cher sur une période de temps longue. L'innovation, c'est qu'on va apporter ce qu'on on appelle le téléphone portable de l'eau. C'est ça l'innovation, c'est on n'a plus besoin d'infrastructure, on arrive, on est là. On déploie, on pompe, on boit. C'est ça l'innovation. Vous l'avez encore jamais vu.
Qui est concerné dans le monde entier ? Qui est concerné par cette innovation ?
Une partie des 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 150 millions de personnes qui sont impactées par les urgences. Et puis, il faut le rappeler, et ça c'est un peu dramatique, enfin c'est complètement dramatique, c'est 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent tous les ans de ne pas avoir accès à de l'eau potable.
Et pour être encore beaucoup plus proche, à Nice, l'année dernière, dans l'arrière-pays, rappelez-vous...
C'est Evelyne qui pose les questions.
Dans l'arrière-pays, rappelez-vous, il y a quand même eu il y a une petite année, ils n'ont pas eu accès à l'eau potable pendant plusieurs semaines. Et là, typiquement, il n'y a pas besoin de partir en Afrique pour savoir qu'on a besoin de son innovation.
Je n'ai pas compris que c'était pour autant la cible de Fontaine des Vivaux.
Je vais dire une bonne, une bonne start-up ne peut pas avoir 10 cibles. On en a deux déjà, les pays, les gouvernements... Et les ONG, c'est déjà beaucoup. Mais effectivement, on le sait tous, le changement climatique va apporter des problèmes chez nous aussi. Et notre purificateur pourra apporter des solutions à ces problèmes.
Philippe, une dernière question ?
Donc votre comparaison par rapport au téléphone portable, je crois, était la bonne. Donc vous êtes un peu le Nokia ou le BlackBerry de la purification d'eau.
Pas le BlackBerry, parce qu'on ne s'en sert plus.
C'est ce que j'essaie de suggérer. Et donc ce qui m'inquiète quand même, c'est quelle sera votre innovation d'après et comment est-ce que vous allez pouvoir croître et résister à la concurrence, parce que, comme le disait Fabrice, l'innovation n'est pas majeure.
L'après, il n'est pas compliqué. On a un brevet qui va nous permettre de fabriquer sous licence. Donc, si vous êtes obsédé par le coût et le prix, nous, on l'est aussi un petit peu, demain, on fabriquera au plus proche des marchés. C'est-à-dire qu'on fabriquera en Amérique du Sud, on fabriquera en Afrique. Et là, les coûts vont baisser et on restera encore avec toujours un temps d'avance.
Alors, j'ai regardé vos brevets. Il ne me semble pas que vous soyez breveté à Taïwan ou en Hongrie ou en Afrique.
Philippe a beaucoup de brevets. Hein. C'est pour ça qu'il regarde les brevets des autres.
Si vous n'êtes pas breveté dans le produit de production ou dans les pays de commercialisation, l'Afrique, vous n'êtes pas, en fait, ça ne vous protège pas beaucoup.
Non, mais il n'y a qu'un produit comme le vôtre, un cœur artificiel qui est incontournable. Et encore, je suppose que vous avez de la concurrence.
Chinoise.
On a forcément de la concurrence.
Elle risque d'être très forte, donc j'aimerais vous entendre dire que vous allez continuer à innover fortement pour développer la génération 2, 3 et 4.
Je crois que je l'ai déjà dit, en fait, on innove déjà. On travaille déjà avec des universitaires, on travaille déjà avec des sociétés qui sont spécialisées dans les membranes. C'est déjà un coup qu'on a préparé en avance. Donc là-dessus, on n'a pas de soucis.
Fabrice, il reste 30 secondes. Est-ce que vous allez intégrer Fonto di Vivo dans le village Baïséa?
Mais il l'est déjà, en fait, au village Baïséa de l'Atlantique Vendée.
Exactement.
Il peut y avoir des transferts. Je passe pas les joueurs de foot.
Bien sûr, avec plaisir, je l'accueille au village de Paris.
Dernière question.
La dernière question, j'en avais une notamment.
Petite.
À propos de l'eau polluée par la chimie, j'ai compris que votre produit ne permettait pas, en tout cas, de pouvoir la filtrer. Mais quand je suis un utilisateur lambda, comment je sais, moi, si l'eau est contaminée ou pas par de la chimie? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il y a une alerte sur votre purificateur? Enfin, comment je fais pour ne pas prendre le risque, alors même que je vais l'utiliser en toute confiance?
C'est-à-dire que nous, on répond à une problématique qui a été définie par l'OMS et qui est la problématique des virus et des bactéries. Et c'est celle-ci qui tue tous les gens dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas d'ingérer de la chimie qui vous tue, quoi. Et généralement, s'il y a un niveau de chimie qui risque de vous tuer, vous êtes au courant. C'est-à-dire que vous habitez près d'une usine qui recrache ce qu'elle ne devrait pas. Et là, généralement, vous avez des signes qui sont avant-coureurs.
Et ça sera notre dernière réponse face à nos deux procureurs, Fabrice Marcella, maire du village Baïséa de Paris, et Philippe Pouletti, fondateur du fonds Truffle, l'homme de Carmat, d'Abivax et aussi de Carbios. La liste est longue, il y a tellement de choses que fait Philippe. Merci beaucoup à Evelyne Platnik-Cohen d'avoir remplacé Virginie Calmels pour cette séquence avocat-procureur. Pour voter pour David sur bfmacademy.fr, c'est le numéro 1. Pour le numéro 2, Margot Correa, Diagramme Technologie, c'est bfmacademy.fr. Le numéro 2 et numéro 3, Moby Travel, Lucas Guébart. C'est au tour de Margot de venir se défendre avec son coach. Mais avant, on part à Lille.
Diagrams Technology, c'est un éditeur de logiciels dédié à la maintenance prédictive pour l'industrie basé dans la région lilloise. Né de la rencontre entre le monde de la recherche et de l'ingénierie industrielle et guidé par trois fondateurs issus de l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique.
Bonjour à tous, c'est Margot Coréard de Diagrams Technology. Je vais vous présenter nos bureaux et ma super équipe.
C'est une équipe de passionnés venus d'horizons distincts qui développent un projet ambitieux.
Je vous présente mon associé Jean-François Bouin, qui est expert industriel. Tu peux nous expliquer ce qui te tient à cœur dans notre projet ?
Simplement permettre à l'industrie de produire mieux. En fait, ce que nous voulons apporter, c'est une solution moderne. Et nous voulons apporter cette solution aux opérationnels de maintenance pour leur permettre de gagner du temps et de pouvoir faire de la fiabilisation des machines.
Je vous présente mon deuxième associé, Quentin Grimont-Pré, qui est en charge de la R&D côté Data Science. Tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment ?
Avec mon équipe, on développe de nouveaux algorithmes qui permettent de détecter des anomalies ou des pannes. Et en fait, on va les tester sur notre banc d'essai.
Je vous présente Nicolas Froidure, le responsable du développement du logiciel chez Diagrams. Tu peux nous dire en deux mots ce qui te plaît chez nous ?
En fait, c'est de pouvoir apporter aux utilisateurs des algorithmes de machine learning qui leur changent leur quotidien et de faire que tout fonctionne correctement, bien sûr, au niveau de la plateforme.
En avril 2021, Diagrams a levé 1,7 million d'euros pour accélérer le développement de sa solution.
Voilà notre deuxième candidate, Margot Coréard, qui va défendre devant les deux coachs transformés en procureur Diagramme Technologie. Fabrice Marcella du village Baïséa de Paris va la défendre. C'est parti Evelyne, on commence avec vous.
Alors moi, quand j'ai vu votre business, j'ai eu un tilt comme ça m'a fait penser au business de la data visualisation. C'est un business qui a explosé ces 5 dernières années. Et des boîtes ont cartonné et d'autres qui avaient la même techno, qui est pas très révolutionnaire, mais très maligne. Et ça me fait penser à votre business, qui est pas très révolutionnaire, mais très, très malin. Et en fin de compte, dans ce type de business, il faut aller très, très, très vite. Comment vous comptez aller très, très, très vite pour pas vous faire dépasser par des concurrents ?
Alors déjà, nous, la data visualisation, ça arrive en numéro 2. On a vraiment toute une partie d'intelligence. Notre métier, c'est d'analyser la donnée, puis de la restituer, de la donner à voir. Mais vraiment, notre métier, c'est d'analyser les données industrielles. Pour aller vite, on a staffé notre équipe avec des personnes de grande qualité, des collaborateurs qui ont des thèses, qui sont vraiment bien câblés sur nos sujets. On s'est entouré d'un comité scientifique pour garder justement cette avance technologique. Et surtout, on est à l'écoute de nos clients et on a co-construit notre solution avec nos clients pour qu'ils nous remontent, eux, quels sont les besoins et comment on peut les aider à améliorer leur vie au quotidien dans les usines.
Philippe, c'est parti.
Donc Margot, là également, l'avancée technologique, la protection intellectuelle, ça va être fondamental, parce que sinon, comme vous le savez, on maintient en conditions opérationnelles, contrôle de qualité, tout le monde s'y met, des sociétés d'informatique, les sociétés elles-mêmes, et ça risque de devenir une commodité. Donc, j'ai regardé les brevets, j'aime bien faire ça. Alors je sais que vous travaillez avec l'INRIA, mais j'en ai pas trouvé au nom de la société.
Oui, parce qu'en fait, la technologie, elle a été développée chez INRIA, elle est propriétaire de la technologie, et nous, on a une licence exclusive d'exploitation dans notre secteur d'activité.
D'accord, mais comme vous le savez, la technologie de départ, c'est utile, mais ensuite, il faut développer, maintenir, et le fait que vous ne déposiez pas des brevets, ça m'inquiète pour votre avenir. Pourriez être dépassé.
Alors, on ne sera pas dépassé, parce qu'un de mes associés, c'est Quentin Grimont-Pré, c'est lui qui était donc chez INRIA en charge de développer cette technologie qui a rejoint l'entreprise. Donc voilà, on est...
Quentin est là, mais je n'ai pas vu de nouveau brevet à son nom, au nom de l'entreprise.
Parce qu'on y travaille.
Ah ben oui, mais...
Fabrice,
on y va étape par étape. Je vous rappelle qu'on est avec une start-up. Donc sa première étape déjà, c'est d'avoir fait la preuve de son concept, d'avoir réussi à vendre à des entreprises françaises de renom, des grands groupes. Et je vous rappelle qu'on travaille d'ailleurs sur de la maintenance prédictive qui correspond à des enjeux extrêmement forts aujourd'hui, je le rappelle de nouveau, en France. Et l'idée, c'est de rendre attractif le territoire français pour relocaliser nos entreprises et nos industries. C'est de ça dont on parle. Là, je vois bien où vous essayez de nous entraîner, Philippe. Ce n'est pas le sujet.
Non, enfin, Fabrice, on ne parle pas tout à fait de ça non plus, si tu veux. Elle ne va pas révolutionner à elle toute seule la relocalisation. Mais moi, j'ai une autre question.
Non, mais elle va y contribuer, je pense fortement.
En tout cas, moi, j'ai une autre question. Si demain, je vous donne 500 000 euros, vous en faites quoi?
Alors, on va renforcer nos équipes encore.
Lesquelles?
Nos équipes techniques, nos équipes de développement. Notre sujet, il est vraiment là. C'est, on a aujourd'hui les briques de R&D, les briques d'analyse de données. Tout l'objectif maintenant, c'est de faire un paramétrage le plus facile, le plus rapide, pour que nos clients, voilà, on puisse leur livrer la solution le plus rapidement possible. Et après, tout l'aspect d'ergonomie du logiciel, de développer de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on travaille avec des clients au niveau national. Et l'idée, c'est que nos clients nous amènent chez eux, en fait, au niveau de leur groupe, dans différentes usines à travers le monde. Et pour après offrir un service de qualité, on aura besoin d'ouvrir des réseaux aussi à l'étranger. Et ça, c'est l'étape numéro 2 pour Diagrams.
C'est la bonne réponse pour les 500 000 euros?
C'est une vraie réponse d'ingénieur. Moi, ce que j'aurais voulu entendre, c'est je vais recruter, je prends la moitié et je recrute des commerciaux.
C'est une réponse de directrice générale d'une entreprise pleine d'avenir.
D'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, pleine d'avenir technologique. Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'enjeu, il est business. Et que c'est bien d'aller chercher du business et de construire avec ses clients. Mais si on est en lien fermé à vouloir co-construire, à vouloir développer, mais que derrière on ne signe pas, ça va poser un problème et on va se faire développer.
Par rapport à ça, aujourd'hui, nos clients sont des grands comptes qui ont des dizaines, des cinquantaines, des centaines d'usines à travers le monde. Donc notre stratégie, c'est vraiment de satisfaire nos clients aujourd'hui. On travaille sur quelques lignes de production pour qu'ils soient contents, pour qu'on puisse déployer chez eux. Et donc du coup, cet aspect commercial, il est évidemment au cœur de l'entreprise. Et nous, on l'opère comme ça au quotidien pour rentrer chez un client et se déployer ensuite chez eux au niveau international.
Ça me semble important également que tu rappelles les économies que tu fais faire à une entreprise qui pourrait être susceptible d'être arrêtée du fait de son usine qui s'arrête.
Complètement. Aujourd'hui, alors tout secteur confondu, une panne, un arrêt sur les lignes de production, c'est plus de 200 000 euros de l'heure. Donc on vient vraiment aider les équipes, à la fois au niveau de leur budget maintenance, mais aussi sur l'aspect RH, comment on peut mieux optimiser ces interventions. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, la partie RH au niveau des usines, c'est quelque chose de problématique, puisque les experts sont partis à la retraite. L'industrie a eu un peu plus de mal à recruter de jeunes talents au niveau des services de maintenance. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes en sous-effectif, qui sont sous pression, qui doivent gérer un parc de machines énorme. Et donc nous, l'idée, c'est de leur apporter la bonne info au bon moment pour les aider à travailler dans la sérénité et aider évidemment les équipes dirigeantes à optimiser leur performance à la fois économique et environnementale.
Autant Philippe Pouletti est obsédé par les brevets, autant vous êtes clairement obsédé par les commerciaux. Mais écoutez, logique.
Vous avez changé. Donc vos clients actuels, ils vous signent des contrats d'exclusivité de 5 ans, de 10 ans?
Non, aujourd'hui, on est sur des contrats d'un an.
Voilà. Donc vous voulez dire qu'au bout d'un an, vous leur apprenez, ils pourraient peut-être se passer de vous?
Non.
Non, enfin, c'est un moyen de rassurer le client pour faire confiance à une jeune entreprise qui démarre quand on est une start-up. Vous le savez très bien, Philippe, qu'il est extrêmement complexe de pouvoir rassurer un grand groupe. Et un an, c'est un temps de test nécessaire pour pouvoir signer la suite.
Vos clients pourraient-ils se passer de vous au bout de 1 à 2 ans?
Alors, la réponse, elle est concrète. C'est qu'aujourd'hui, on fait des projets pilotes avec nos clients qui sont contents de ce qu'on fait. Donc, ils veulent déployer sur plusieurs lignes de production. Pour nous, c'est la preuve qu'on leur apporte une vraie valeur et qu'ils n'ont pas envie de se passer de nous parce qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin au quotidien.
Non, je n'en doute pas. Mais comme vous savez, la pérennité d'un contrat entre un petit prestataire et un grand groupe, ça ne dépend pas seulement de la satisfaction temporaire.
Ce n'est pas un petit prestataire, donc, c'est une start-up qui a besoin de faire la preuve de son concept.
Mais je rebondis sur Philippe.
C'est pas un petit prestataire.
Je suis d'accord avec son analyse. Je pense que quand on a des prestations comme les vôtres, c'est des contrats de 5 ans minimum directement. Mmh. Ce n'est pas en tant que start-up ce que vous apportez en un an, vous ne pouvez rien apporter. D'autant que ma question suivante, c'était à peu près la même. C'est que le temps que j'ai compris en regardant différentes émissions, le temps que ça se mette en place, que des pannes arrivent pour tester si véritablement c'est une panne ou pas, globalement, dans 10 ans, je sais si mon installation est optimale ou pas. Donc un contrat d'un an, ça ne veut strictement rien dire.
Alors aujourd'hui, on débute, donc voilà, on a fait des contrats d'un an et puis après on va revisiter ça avec nos clients au fur et à mesure, on est complètement ouvert. L'objectif, c'est vraiment de montrer notre valeur, voilà, de rassurer les clients et après de signer non plus un seul site, mais de faire des accords cadres pour équiper l'ensemble des usines de nos clients.
Vous êtes propriétaire des données que vous générez ou c'est le client
pas
qui est propriétaire? Ah, ça va être un handicap.
Alors, ce n'est pas du tout un handicap, puisque c'est très important que nos clients restent propriétaires de leurs données. Nous, on est propriétaires de nos algorithmes, mais par contre, le paramétrage pour analyser leurs données leur appartient aussi.
Tout à fait, mais avouez que c'est plus facile pour eux, propriétaires des données, de changer de prestataire.
Avouez. Alors, carrément.
Avouez.
Mais encore faut-il qu'il y ait un concurrent qui soit en mesure de pouvoir agréger l'ensemble de ces données, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ah bah,
donc il y a 7 ans d'avance aujourd'hui.
Il y a un Israélien qui n'est pas mauvais là-dessus.
Moi, je ne le connais pas, il n'est pas en France en tout cas.
Et il est surtout spécialisé sur un secteur d'activité très précis, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui.
On dirait deux recruteurs qui recrutent des stagiaires en leur disant vous n'avez pas assez d'expérience. On le dit. Hein.
En tout cas, Evine se propose de venir commercialiser ton offre auprès des grands groupes. C'est ça que tu dis en fait.
Redites-nous.
Non, Evine se propose d'être commercial grand compte, peut-être pour Diagrams Technologies. Hein.
Non, mais je recruterai volontiers Margot dans sa future aventure.
Et vous lui demanderez d'avouer, comme vous avez demandé dans la BFM Academy. Merci beaucoup.
Bravo, Margot.
Margot porte le numéro 2 pour voter sur bfmacademy.fr. Vous avez juste jusqu'à 20h. Vous votez pour David Monnier, Fonto du Vivo, le numéro 1, et pour Lucas Guébard, le numéro 3, qu'on va découvrir dans un instant. Moby Travel, il vous reste un bon quart d'heure pour voter. Ils y croient, hein. Mais est-ce que vous croyez en eux? C'est la question qu'on vous pose. On va découvrir maintenant un petit peu plus de Lucas et de Moby Travel. On part à Lyon.
Moby Travel, c'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et handicapées qui veut rendre le voyage accessible à tous. Né d'une expérience personnelle de Lucas Guébard, son fondateur, Moby Travel, c'est 13 emplois créés en France, dont 8 dans la région lyonnaise. Une équipe qui partage sa philosophie.
On est une équipe jeune, ambitieuse et polyvalente qui se veut déjà éco-responsable et surtout sociale et sociétale pour un monde de demain, construire quelque chose de cool, de mieux. Si c'est possible, en tout cas.
Écoute, moi, je m'occupe notamment de la partie du label où on labellise les établissements qu'on propose via Moby Travel. On vérifie leur accessibilité via un cahier des charges et c'est ce qui nous permet de donner une note en fait, d'accessibilité à un établissement.
Moi, je m'occupe de la réservation des séjours des clients. Je les accompagne de A à Z dans cette recherche-là pour l'hébergement, le matériel médical. Et voilà, mon but, c'est que les clients reviennent de leur séjour satisfaits.
Lauréate du prix 1000 Startups pour sauver le monde dans la catégorie Smart Tech en 2020, l'entreprise poursuit son développement et prépare une levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour fin 2021 pour attaquer le marché européen.
Notre ambition demain, c'est d'être le leader européen du tourisme accessible.
Lucas Guébard va passer désormais sur le grill avec Moby Travel, site de réservation spécialisé pour les personnes atteintes de handicap. Votre avocat, c'est Philippe Pouletti. Vous faites face à Evelyne Platnik-Cohen, The Artist Academy, et Fabrice Marcella, Village by CA de Paris. Allez, c'est Fabrice qui commence. Evelyne a beaucoup trop commencé. C'est parti, Fabrice.
Elle a beaucoup trop commencé. Lucas, j'aime beaucoup la finalité du service que vous proposez. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une énième plateforme qui se propose de mettre en relation les uns avec les autres. D'ailleurs, vous êtes sur un business model dit biface, puisqu'il s'agit à la fois d'avoir une offre à destination des propriétaires comme des voyageurs. On sait très bien que pour pouvoir réussir sur ce type de plateforme, il faut déclencher l'effet réseau. Et vous avez affirmé, d'ailleurs, dans l'une des émissions précédentes, que vous étiez extrêmement présent sur le net, qui est l'un des canaux, j'imagine, aujourd'hui de recrutement de vos clients. Et vous aviez même indiqué qu'il suffisait de taper voyage handicap pour vous retrouver. J'ai fait le test. C'est ma spécialité de faire le test.
Il fait toujours les tests.
Voilà, j'attendais justement que vous rebondissiez. Eh bien écoutez, j'ai arrêté de chercher puisqu'à la page 5 de Google, vous n'étiez toujours pas présent. Alors comment allez-vous faire pour exister alors que vous n'existez pas aujourd'hui sur le web ?
Alors, aujourd'hui, j'ai précisé ça dans l'émission dernière, on ne se place pas sur voyage handicap, c'est des mots qui sont génériques, où il y a des gros acteurs qui sont positionnés, comme booking.com, hotel.com. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore la force de frappe. Nous, on est plus intelligents qu'eux, on va se positionner sur des chaînes de mots-clés de longue traîne. On va se positionner sur voyage, handicap, Côte d'Azur. Vous, quand vous partez en vacances...
J'ai essayé ça. Ah non, ça, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai essayé ça.
Où voulez-vous partir en vacances ? C'est aussi la destination qui n'a peut-être pas eu, on n'a peut-être pas eu de chance. Mais quand vous partez en vacances, je suppose que vous savez où vous voulez aller.
Oui.
Donc, nos clients, c'est exactement...
Vraiment, j'ai essayé, j'ai pris du temps pour le faire, pour préparer cette émission. Et vraiment, je ne vous ai pas trouvé.
Fabrice, il y a des gens qui sont très présents sur le net avec pas de chiffre d'affaires. Et Moby Travel, ils ont un chiffre d'affaires en période de Covid conséquent, avec peut-être moins de présence sur le net.
Ah, le référencement, ça compte.
Le référencement dans son activité.
Mais le référencement
dans son activité.
Les handicapés sont un réseau qui communique beaucoup entre eux.
Il y a beaucoup de concurrence. Vraiment, 5 pages de concurrents. Et puis, je n'ai pas de nouveau tout défilé. Hein, donc, ce n'est pas simple d'émerger.
Ça veut dire quoi, Lucas ? Qu'il va falloir bosser sur le référencement, faire de l'achat ?
Alors, il se trouve qu'on fait un petit peu de référencement payant. Mais en fait, nous, notre stratégie d'acquisition, c'est aussi sur le réseau. On a un réseau d'ambassadeurs, plus de 300 ambassadeurs aujourd'hui. Et aussi, on a créé notre propre groupe Facebook où on va se partager donc, des informations sur le voyage, etc. Et on va aussi faire des partenariats avec des associations, comme la FM Téléthon, par exemple, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des réductions quand vous venez.
Vous mesurez aujourd'hui le business généré par les ambassadeurs, c'est ce que vous dites ? Ça représente combien ?
Nos ambassadeurs parlent de nous.
Oui, d'accord.
Aujourd'hui, on a réalisé...
Ça représente combien ?
Aujourd'hui, on réalise plus de 1,3 million d'euros de volume d'affaires annuel, ce qui représente quand même quelque chose d'une certaine somme. Et donc, du coup, on ne mesure pas précisément quelle est la granularité, d'où viennent les clients. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas besoin, parce qu'en fait, on est tellement concentré à s'en occuper comme il faut qu'on n'a pas le temps pour ces petites questions qui sont pour nous des fioritures, parce que du moment qu'ils sont là, on a besoin de...
D'ailleurs, c'est la première entreprise des trois qui parle de son chiffre d'affaires. C'est un signe.
C'est pas son chiffre d'affaires, c'est un volume d'affaires.
C'est un volume d'affaires.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ah, c'est déjà un chiffre quand même.
C'est le premier chiffre de ce soir.
Non, puisqu'on avait 4000 ventes de ce côté-là. Donc c'est complètement...
C'est le premier chiffre.
Non, moi j'ai une question parce que vous êtes super jeune, vous avez 23 ans, très bien. Mais comment ça se fait qu'à 23 ans, on décide d'aller sur un marché aussi concurrentiel ?
Problème personnel. En fait, vous savez, quand vous êtes confronté à un problème personnel aussi grave que celui-ci, rien ne peut vous arrêter, vous avez envie d'y aller et vous allez chercher des solutions. J'ai lancé Moby Travel, j'avais 20 ans, j'avais pas de financement, rien du tout. Malheureusement, j'ai pas des parents qui sont extrêmement dotés, qui ont pu me financer tout le développement. Donc, je suis allé voir des fondations, la fondation de la MAF, que je remercie encore aujourd'hui.
Non, mais ça répond pas à la question, parce qu'il y avait des solutions, il y a déjà des solutions qui existent.
Ah,
moi, j'étais dans l'hôtellerie-restauration il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, c'était des guides papier, etc. D'accord, je suis une vieille génération. Donc, c'est des business que je connais, j'ai vu, les gens m'ont approché, etc. Mais c'est entre guillemets, un vieux métier. Le métier que vous avez choisi ?
Alors, allez sur booking.com, mettez des filtres pour les personnes en situation de handicap, et à mon avis, vous allez voir, vous allez être très vite déçu. Ensuite, allez voir des agences de voyage adaptées, vous allez en voir, vous allez payer 3 à 4 fois plus cher pour les personnes valides. Peut-être que vous avez les moyens, vous êtes chef d'entreprise, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas de toutes les personnes en situation de handicap.
Donc, c'est quoi votre vocation derrière ? C'est ça ? En fait, pourquoi vous pensez avoir fait quelque chose de différent que ces 5 pages que citait Fabrice de concurrents ?
Parce qu'on propose à nos clients de partir en vacances avec
où ils vont être sûrs que tout va bien se passer au même prix que sur Booking.com, que sur Airbnb. Ils ne vont pas être surfacturés parce qu'ils sont en situation
d'handicap. Evelyne fait semblant de ne pas avoir compris. Il n'y a pas une énorme concurrence. C'est la seule société qui va vérifier 30 000 hein, aujourd'hui
30 000
hébergements. Ce n'est pas du Booking.com qui dit « bah oui, il y a un petit accès ».
Oui, hein,
mais attendez, Evelyne, les vrais concurrents. En plus de ce service-là, qui est très important, hein, les handicapés veulent savoir qu'ils ont un accès à la salle de bain, des toilettes, accès à la piscine, pas du booking.com. Les services additionnels que sont MobiJob pour les handicapés qui pourront trouver un job MobiCare avec de la télémédecine associée, mais ça a une valeur ajoutée énorme. Et donc, personne ne fait ça.
Mais qui dit que personne ne le fait ? Enfin, c'est vous qui le dites, Philippe. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis allé voir, j'ai vu un ensemble de sites, Voyage Handicap, par exemple, ou d'autres qui proposent, et non pas Booking.com, d'autres entreprises qui sont spécialisées et qui proposent exactement le même service. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Lucas, quand vous dites que
avec
vous êtes moins cher...
Avec télémédecine, Fabrice avec télémédecine.
C'est un point que vous évoquez que je peux aller chercher sûrement.
C'est un nouveau service,
c'est une opportunité. Mais juste, Lucas, je vais juste terminer ma question. Vous expliquez en fait que votre élément de différenciation, c'est de proposer des services moins chers en fait que vos concurrents. Comment gagnez-vous votre vie alors ?
Parce
que j'imagine que les marges dans votre secteur sont extrêmement faibles.
Alors en fait, je le répète à chaque émission, il se trouve qu'on ne va pas prendre une commission que sur le logement, on va prendre une commission sur le logement, mais aussi sur le transport, aussi sur le matériel médical, sur les aides médicales. Et en fait, tout ça, ça nous donne une marge suffisamment intéressante. Et donc, ça nous permet de totalement vivre, sachant qu'il y a beaucoup de services qui sont en France pris en charge par la Sécurité sociale. Et c'est bien normal, parce que si tous les jours vous avez une infirmière, il n'y a pas de raison qu'en vacances, vous n'ayez pas d'infirmière.
Donc, vous prenez une commission sur les infirmières que vous avez en vacances ?
Les infirmières, non. Les auxiliaires de vie, ça arrive.
Ensuite, le système de sécurité sociale, c'est la remarque que vous aviez eue dans une autre émission.
Vous faites
la même réponse,
Fabrice.
Je vous fais la même remarque. Ça n'existe qu'en France, ce modèle-là, finalement. Est-ce que votre produit est exportable avec un modèle économique tel que celui que vous venez de nous exprimer ?
Alors, dans les autres pays, on a des clients aujourd'hui de 8 nationalités différentes. Plus de 3000 clients aujourd'hui, je tiens à le préciser, ce qui est assez important. Et oui, nos clients à l'étranger payent leur matériel médical. Ils ont l'habitude de le faire avec des systèmes de mutuelles. Donc, moi, demain, vous me dites, je vais aller à Marrakech, je vais vous faire livrer un lit médical. Vous allez payer votre matériel médical comme vous avez l'habitude de le faire tous les jours.
Et vous n'êtes pas moins cher de ce fait, là, sur
Ah bah non,
mais
c'est pas, je ne suis pas une pharmacie, c'est pas moi qui fixe les prix.
On est d'accord.
Vous n'êtes pas dans un village baïséen ?
Pas encore.
Et ben voilà. Je recrute pour vous, Fabrice Angela. Je me permets de vous aider. Il n'y a plus de temps, Yveline. Il n'y a plus de questions. C'est terminé. Lucas Guébart pour Moby Travel qui porte le numéro 3. Vous votez sur bfmacademy.fr. Numéro 3 pour Lucas Guébart. Numéro 1 pour David Monnier, Fonto de Vivo. Et numéro 2 pour Margot Coréard, Diagramme Technologie. Oh, c'était dur. Vous êtes encore plus dur que moi. On va faire une petite pause sympathie avec notre œil du boss.
BFM Academy, l'œil du boss.
Chacun reprend sa place de coach. On arrête avec les avocats et les procureurs, sa place de candidat. Bravo à tous les trois, vous êtes extrêmement bien défendus. On va accueillir notre boss, celui qui va nous donner son point de vue sur nos trois candidats. Autodidacte, polyglotte, triple champion du monde de roller sur rampe, magicien, patron de papeterie, vainqueur de Pékin Express et qui a participé à Koh-Lanta, cascadeur. Des succès, des échecs, c'est Ty Chris qui est avec nous. Bonjour, venez me rejoindre, mettez-vous juste ici. Ty, vous avez eu 1000 vies, je sais même peut-être plus.
J'en ai eu pas mal, c'est vrai.
L'entrepreneuriat, c'est une vie parmi d'autres ou désormais c'est toute votre vie ?
Non, c'est une vie parmi d'autres. J'ai beaucoup de projets, même artistiques dans le futur, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette casquette d'entrepreneur parce que j'étais dans un sport qui n'avait pas beaucoup de potentiel. Donc en parallèle de ma carrière de sportif, j'ai commencé à monter des boîtes, d'abord dans le sport. Et il y a 6 ans en arrière, sur mon lit d'hôpital, là, je me suis dit, il faut vraiment que je me réinvente. Et j'ai essayé de démarrer une nouvelle vie dans le monde des télécoms, sans rien connaître, sans argent.
Ça, c'est On-Off ?
On-Off, voilà, c'est une application. Maintenant, c'est un opérateur télécom, on est dans plein de pays. Mais donc, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Vous voulez un numéro pro, un numéro perso, vous téléchargez mon application et en un clic, vous avez un deuxième numéro.
Vous avez élevé 20 millions.
J'ai élevé 20 millions.
Ça ne vous suffisait pas. Vous avez dit, je m'ennuie.
Déjà, avant même ça, l'avantage, c'est qu'on a réussi à atteindre la rentabilité. Enfin, maintenant, on est 70. Il y a maintenant des gros opérateurs qui vendent notre service. On a même été intégré dans Microsoft. Donc, la boîte est vraiment en train de devenir une énorme boîte. Et comme vous venez de le dire, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai créé une deuxième boîte qui est un WhatsApp de la photo. C'est une application qui s'appelle Album, qui permet de faire des albums collaboratifs entre potes.
Vous êtes d'abord attaqué au secteur des télécoms et maintenant vous vous attaquez aux GAFA.
Oui, mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais y arriver. Mais en tout cas, j'ai l'ambition, j'essaye de voir les choses en grand.
Vous avez regardé les trois dossiers, les trois pitchs, les trois parcours de nos entrepreneurs d'aujourd'hui. Vous avez donné votre regard, comme ça, c'est pas forcément un jugement, c'est ce que vous pensez de leur business. On commence avec David Monnier, qui a créé Fonto de Vivo. On a envie de dire le David, on a envie de dire ce dit Fonto de Vivo, purificateur d'eau. On y va.
Alors, bonjour David, c'est clair que déjà pour vous trois, ce que je trouve super, c'est qu'enfin on a des boîtes françaises qui ont un potentiel international et ça fait vraiment plaisir. Donc continuez et foncez parce qu'on a besoin de ça, et on a marre de voir que les GAFA qui réussissent. Alors pour parler de ta boîte David, on se tutoie, désolé.
Alors, on se tutoie, oui.
Écoute, évidemment, ta boîte a une des plus grandes visions, de pouvoir donner à 2 milliards de personnes l'accès à l'eau potable. Ça, c'est extraordinaire. Mais je vois que vous êtes encore une petite équipe. Vous êtes pour l'instant que 4, etc. Et donc, il faut vraiment arriver à... C'est super d'avoir une vision, humanitaire. Mais si vous voulez faire vraiment de l'impact, il faut aussi, même si dans le cœur on est humanitaire, mais dans la tête, être business. Parce qu'à partir du moment où vous allez prouver que vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent, et je crois que c'est le cas quand vous vendez par exemple une recharge, un purificateur à 89 €, vous faites une marge quand même assez importante, autour de 40%, quelque chose comme ça. Donc il faut arriver à prouver que vous avez derrière une énorme rentabilité, parce que c'est là que vous allez pouvoir vraiment sauver des millions de vies dans le monde, parce qu'au final, le nerf de la guerre, c'est finalement les investisseurs qui vont rajouter pour le coup de l'eau dans la machine pour pouvoir toucher le monde entier. Donc, votre vision est top, le produit semble top, mais vous êtes encore au début et il faut repenser le pitch ou en tout cas de montrer beaucoup plus de croissance et de rentabilité pour le déployer partout. Un avantage quand même que vous avez, c'est que quand même c'est pas vous qui allez directement vendre votre produit en direct, puisque c'est les ONG qui les donnent directement. Vous les vendez aux ONG, au gouvernement, donc vous pouvez scaler énormément, et pour ça il faut agrandir l'équipe et avoir de l'argent.
Vous avez la directrice commerciale en chef, vous verrez ça avec pour augmenter l'équipe. Margot Coréard qui porte le numéro 2, Diagramme Technologies.
Alors, Diagramme Technologies, ce que j'ai regardé, bon, évidemment, ils sont un peu plus gros puisqu'ils sont 13 aujourd'hui. Ils ont des gros clients comme Siemens et Schneider Electric. Par contre, je vois un petit peu de la même façon, c'est ce côté international qu'il faut beaucoup plus accélérer, parce que je crois que vous avez autour de 5 clients, ou en tout cas pas énormément de clients aujourd'hui. La vision semble bonne, parce que par rapport à vos concurrents sont uniquement sur une typologie de produits et ils ont besoin de beaucoup de maintenance, alors que vous avez un produit qui est aussi bien alimentaire, télécom, énergie, et beaucoup plus large. Et justement, c'est avec l'intelligence artificielle, je veux dire l'AI, pour pas mettre d'ingénieurs qui vont directement faire les modifications. Donc là, tout ça, c'est super. Après, maintenant, comment vous allez faire pour vraiment vous différencier par rapport aux concurrents? Il y a des similitudes, hein, pour vous différencier, pour accélérer. Et un point très important, c'est la data. C'est-à-dire que, puisque vous allez connaître réellement le nombre de fabrications que toutes ces usines vont faire, si vous voulez arriver à convaincre des boîtes américaines d'utiliser votre technologie, il faut arriver à leur prouver que vos data sont protégées, que vous n'allez pas les utiliser. Et ça va, à mon avis, être le nerf de la guerre. Sinon, vous n'allez pas rentrer dans des grandes boîtes.
Vos conseils pour Moby Travel qui porte le numéro 3, Lucas Gebhardt.
Alors, pour Moby Travel, à nouveau, supervision. Moi, j'ai été souvent à l'hôpital avec les béquilles ou en chaise roulante avec les accidents. Donc, à mon petit niveau,
Après, vous faites que des trucs dangereux.
Dangereux. Donc, je sais la galère que c'est de trouver un hôtel ou quoi que ce soit quand on est en quelque sorte un peu réduit. Et donc, super par rapport à ça, mais à nouveau, je vois qu'il y a des gros concurrents, il y en a, je crois, un en Suède. Qu'est-ce qui fait aussi que... Quelle va être la contre-attaque si demain, par exemple, un Booking se décide à targeter exactement ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Ils ont le réseau, ils ont l'application. Je vois aussi que niveau technologique, on est tous dans un monde où on a besoin d'une expérience utilisateur extrêmement importante et on voit les applications de type Booking qui sont extrêmement fluides. Comment vous allez faire? Et là, après, c'est une question que je te pose. Comment vous allez faire pour tenir la techno et arriver au niveau d'un Booking là-dessus et pour arriver aussi à vous déployer, parce que je crois que vous le vendez avec beaucoup de revendeurs. Il y a Selecto, je crois, en France, qui revendent votre service. Donc, comment vous allez faire pour dupliquer ça dans tous les pays et justement devenir le leader là-dessus? Donc, réponds-moi juste là-dessus. Comment vous allez faire pour vraiment internationaliser et devenir le leader sur ce domaine?
Alors, on se différencie via tous les services qu'on a déjà cités. Donc matériel médical, aide médicale, et comment on va faire à l'international. Dans tous les pays, il existe des réseaux d'agences de voyage dans lesquels on souhaite être distribué, et on a déjà des pistes en Allemagne.
Ok. Bon, en tout cas, voilà, c'était la...
Merci beaucoup pour votre œil avisé. Vous avez fait Pékin Express, Koh Lanta, la BFM Academy, Danse avec les stars.
Danse avec les stars.
Et après, c'est quoi, du coup? Vous allez faire quoi?
Non, mais les projets, j'en ai plein. J'avais écrit un long métrage.
Non, mais Massinger, c'était avec des déguisements.
non.
J'ai envie, moi.
Non, mais déjà, les startups, j'ai mes deux boîtes à gérer et ça, c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup, Taïk, de nous avoir accompagnés dans cette BFM Academy. Fonto de Vivo, David Monnier, tapez 1 sur bfmacademy.fr. Margot Correa, tapez 2 Diagramme Technologie. Et Moby Travel, Lucas Guébart, tapez 3. Il vous reste un quart d'heure pour voter. Ils y croient, vous l'avez vu. Taïk Riss y croit. J'y crois, les coachs, ils y croient aussi. Mais vous, est-ce que vous y croyez? On vous attend. On a été gentils, on a été bienveillants. Maintenant, c'est l'heure des questions qui tuent.
BFM Academy, les questions qui tuent.
Les questions qui tuent, ce sont des questions méchantes que j'ai moi-même inventées et qui sont parfois de totale mauvaise foi. C'est parti, c'est David Monnier qui commence. Venez en face de moi, David. David, c'est une séquence qui fait pas peur aux enfants, mais qui fait souvent peur aux entrepreneurs. Vous me répondez du tac au tac. Première question, David, est-ce que vous souhaitez des typhons destructeurs pour booster votre marché?
Malheureusement, c'est pas nécessaire. Il y a déjà suffisamment de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable sans les typhons.
Est-ce que vous êtes prêt pour les procès de tous les humains qui ont mal au ventre?
Pour les procès, il n'y en aura pas. On a derrière nous les normes qui répondent à l'OMS, les Nations Unies, il n'y aura pas de procès.
Personne n'a mal au ventre. Qui est le plus méchant, Bill Gates ou Jeff Bezos?
Joker, c'est ça?
Non, on est sur BFM Business,
on
personne.
On est sur BFM Business, personne, puisque tout le monde va aider à concourir à ce qu'on veut faire, donner de l'eau pour tous et partout.
Parfait. À votre capital, est-ce que vous accepteriez Evian?
Oui, tout à fait, oui.
Et une société de piscine?
Oui.
Est-ce que vous avez pensé à faire une version paillette de votre purificateur? Parce que c'est moche.
Non, mais peut-être que demain, on aura un design qui vous plaira plus, rose.
Qui vous préférez comme égérie? Madonna, Marion Cotillard ou Angelina Jolie?
Marion Cotillard.
Excellent, je crois qu'elle est disponible et pas chère du tout.
Très bien, elle peut m'appeler.
Si je vous propose un poste de cadre sup avec ticket restaurant, 8 semaines de congés payés chez Veolia, est-ce que vous signez?
Non, je peux pas, je suis pris en ce moment.
Merci beaucoup, David. Vous pouvez rejoindre votre place. Margot, c'est votre tour pour les questions qui tuent. Venez me rejoindre, Margot. Diagramme Technologie. Margot, est-ce que vous êtes déjà plantée dans un recrutement?
Oui.
C'était grave?
Non, puisqu'on a appris de nos échecs.
Bien sûr, excellente réponse. Vous avez 3 associés, Margot. Vous préférez lequel?
Le plus vieux.
Pourquoi?
Il se reconnaîtra.
Parce qu'il est vieux?
Ouais.
C'est pour ça que vous le préférez?
Non, c'est parce que c'est avec lui que j'ai cofondé l'entreprise. Et Quentin nous a rejoint après.
Vous connaissez toutes les machines, Margot. Est-ce qu'il y a une marque à ne jamais acheter?
On connaît pas encore toutes les machines, donc je peux pas vous répondre encore. On se donne rendez-vous. Dans 2 ans, je les connaîtrai toutes.
Et vous nous direz laquelle il faut éviter?
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà pensé à dérégler toutes les machines du monde juste pour voir ce que ça fait?
Non, n'est pas cruel.
Quel est votre prix, Margot, pour vendre votre boîte?
J'ai 35 ans, j'ai pas du tout envie d'être à la retraite demain, donc on n'a pas de prix.
Vous n'avez donc pas envie d'être riche?
Non.
Tiens, c'est bizarre, ça. Est-ce que vous comptez vraiment rester à Lille, Margot?
J'adore Lille. J'ai grandi dans les dom-toms, le soleil, je connais. Et Lille, il y a une chaleur de vivre et des associés super, donc j'y reste.
D'accord, très bien, vous aimez la pluie. Qui est le plus fort, Margot? Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker ou Superman?
Superman.
Vous êtes dingue, Guillaume Rosier, quand même. Est-ce qu'il faut forcément avoir été au Hellfest, célèbre festival de métal, pour rentrer dans votre boîte, Margot?
J'adore le Hellfest.
Vous recrutez sur cet élément ou vous ouvrez quand même aux autres musiques?
On adore toutes les musiques.
Merci beaucoup, Margot. Vous pouvez rejoindre votre place. C'est au tour de Lucas de venir face à moi pour ces questions qui tuent. Lucas, prenez votre boîtier dans votre main. Tous les boîtiers, venez jusqu'à moi. Lucas, mettez-les dans les poches. C'est normal, ça m'est arrivé la saison dernière. Ne vous inquiétez pas. Lucas, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? L'URSSAF ou les prud'hommes?
Prud'hommes.
C'est vrai que ça fait peur. Si Accor lance un site dédié au handicap, est-ce que vous mettez la clé sous la porte?
Pas du tout.
Pas peur. Si Booking vous contacte pour vous absorber, vous faites quoi?
Non.
Vous répondez même pas? Allô, c'est Booking? Non, rien.
Non. On leur montre comment faire.
Ah bah carrément. Très bonne réponse. L'idée de Mobitravel vous vient d'un besoin de vos proches. Est-ce que vous allez monter une boîte pour régler tous les problèmes de tous les gens qui sont autour de vous?
J'ai encore beaucoup de travail avec les personnes à mobilité réduite, mais pourquoi pas? J'ai du temps, j'ai 23 ans.
Bien sûr, vous voulez pouvoir monter 6 ou 7 boîtes. Est-ce que vous êtes capable d'embaucher un senior, Lucas?
J'en ai déjà.
Ça, c'est bien. Si je vous ébouriffe les cheveux, Lucas, qu'est-ce qui se passe?
Je m'en coiffe.
Ça, c'est une très excellente réponse. Est-ce que vous êtes vraiment jeune, Lucas?
23 ans et demi.
Non, mais en vrai, vous êtes...
Oui.
Non, oui, vous êtes vraiment jeune. Non, c'était pour savoir. Quelle est la barre symbolique que vous êtes mis pour vendre votre entreprise?
Pas de barre, c'est le nombre de clients qui compte.
5 millions.
Non, 6. Non.
7.
Non.
OK, vous êtes bon. Vous pouvez retourner à votre place, Lucas. Vous vous êtes tous remis des questions qui tuent. C'est le moment où vous allez devoir défendre votre entreprise, votre choix, votre business face à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, parce qu'il reste une petite, 5 grosses minutes pour voter. BFMacademy.fr, vous tapez 1 pour Fonto de Vivo, David Monnier, vous votez 2 pour Margot Coréard et vous votez 3 pour Lucas Guébard. C'est parti, on commence avec David. Vous avez une grosse minute pour parler au public.
Bon, je vais le redire, ce que j'ai dit tout à l'heure, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, 150 millions de personnes qui sont impactées par des désastres humanitaires tous les ans et 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent. Et toutes ces personnes ont en commun le fait qu'elles n'ont pas accès à de l'eau potable. Notre réponse chez Fonto de Vivo, c'est un purificateur d'eau qui permet de potabiliser par simple pompage manuel, l'eau et de pouvoir la boire immédiatement. Alors généralement, il y a Philippe Pouletti qui me dit alors vous êtes une ONG ou une entreprise. Bon là ça a été inversé aujourd'hui. J'avais pris des notes malheureusement. Et en fait non, on est une entreprise à impact, à très fort impact, et puis aussi une entreprise à mission. Et puis notre mission, comme et ça c'est un petit mot pour Virginie, notre mission c'est de sauver des vies, et je crois que ça c'est important. Et puis généralement la deuxième chose, c'est j'avais noté que je m'attendais à ce que ce soit Fabrice qui me dise mais il est où votre marché? Et le marché, c'est 10 millions d'ONG dans le monde, c'est pas petit quand même. Et puis, c'est 197 pays et gouvernements.
Le marché existe, c'est ça que vous voulez nous dire. Un mot, vous, Evelyne, qui défendez à la place de Virginie Calmels votre candidat.
Aujourd'hui, on écoute BFM Business dans son canapé, dans sa voiture. Je vous dis tout, stop, vous arrêtez les voitures, vous prenez votre téléphone portable, vous votez pour David. Parce que chaque vote, c'est peut-être de sauver une vie. Vous avez entendu tout à l'heure, il vous a dit, grâce à BFM, des gens de Madagascar m'ont connu. Donc dépêchez-vous, ne regardez pas ça bêtement, prenez votre téléphone. Et là, vraiment, vous aurez fait une bonne action ce soir. Donc à vos votes.
À vos votes, le numéro 1 pour David Monnier, numéro 2, Margot Coréard, Diagramme Technologies, vous avez une grosse minute.
Très bien. Alors l'industrie et l'environnement, ça nous concerne tous. La crise sanitaire que nous traversons, elle nous a bien montré l'impact industriel d'une industrie en tension et toutes les conséquences associées. Il y a des conséquences directes sur notre accès aux produits essentiels, des conséquences sur des secteurs prioritaires, la pharmaceutique, l'accès aux vaccins. Et donc quand l'industrie, elle n'est pas en bonne santé, ça impacte directement nos vies, nos emplois et notre territoire. Et donc nous, chez Diagramme Technologies, notre raison d'être, c'est d'aider l'industrie à produire mieux. L'objectif, c'est vraiment de maîtriser son outil de production pour qu'il soit plus durable, d'économiser ses ressources, ses matières premières, et surtout de pouvoir améliorer les conditions de travail des équipes sur le terrain dans les usines. Et aujourd'hui, l'industrie, elle est en pleine transition digitale, et nous, on est convaincus que ce virage, il pourrait être pris efficacement uniquement en impliquant les équipes sur le terrain et en apportant des solutions innovantes qui sont capables de répondre à la fois aux enjeux RH, économiques et environnementaux. C'est ce qu'on propose chez Diagrams. Donc si vous soutenez l'industrie et notre vision, bah, votez numéro 2, votez Diagrams.
Fabrice Marcella, maire du village Baïséa de Paris, dernier mot pour soutenir Margot.
Margot, déjà, est une directrice générale visionnaire qui a su faire preuve de pugnacité, de très grande crédibilité dans le secteur industriel qui est le monde dans lequel elle évolue. D'autre part, le produit qu'elle propose s'inscrit parfaitement dans le plan de relance de l'État. Je rappelle, c'est 35 milliards d'euros pour relocaliser les industries en France et son produit contribue à rendre notre industrie plus attractive. Je rappelle également que ce sont 10 000 emplois à la clé partout en France sur l'ensemble des territoires. Ce sont 15 000 emplois également que l'on va conserver. Donc voter Diagrams Technologies, c'est voter en tout cas pour une start-up qui contribue à répondre à un axe stratégique majeur de relance de notre économie.
Il vous reste quelques minutes, deux minutes même, pour voter et entendre Lucas, Gebhardt, Moby Travel. Vous avez un peu plus d'une minute.
Voter Moby Travel, pourquoi ? Parce qu'en France, il y a plus de 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, dont plus de 3 millions qui sont à mobilité réduite et qui ont grandement besoin, comme tout le monde, de partir en vacances facilement sans avoir de problème d'accessibilité. C'est vraiment un gros souci et avec le vieillissement de la population, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc Moby Travel, on est là avec que des logements qu'on a vérifiés et certifiés pour leur apporter des vacances de qualité sans leur faire payer plus cher. En Europe, c'est un marché qui est colossal et on a vraiment pour ambition de devenir le leader européen du tourisme accessible et demain le leader mondial. Donc soutenir Moby Travel aujourd'hui, c'est soutenir le tourisme accessible de demain et d'après-demain.
Il a même pas fait tout son temps, Lucas. Il restait quelques secondes. David a des idées. Lucas, c'est le candidat 3. Il vous reste quelques secondes pour voter sur bfmacademy.fr. Philippe, un dernier mot pour soutenir Lucas.
C'est un formidable impact que Moby Travel, avoir le droit, quand vous êtes handicapé, de partir en vacances avec des vacances de qualité, éventuellement médicalisées, avoir le droit de trouver un job avec Moby Job. Et la France et l'Europe s'occupent très mal de cette énorme population. En plus, Lucas, 23 ans, chapeau, ben, mérite d'être soutenu. Donc, Evine a raison. Arrêtez votre voiture, votez Moby Travel.
Votez Moby Travel. Il vous reste quelques secondes avant qu'on clôture les votes. C'est vraiment la toute dernière ligne droite. 1, 2, 3 sur bfmacademy.fr. On va marquer une pause dans cette grande finale de la saison 16 et on se retrouve pour le résultat, bien sûr, tout ça pour savoir qui a gagné la saison 16 de cette BFM Academy. 150 000 euros à gagner sur nos antennes. A tout de suite sur BFM Business.
Finale de la BFM Academy saison 16. L'heure close.
BFM Academy saison 16, on se retrouve. Quel suspense, on a respiré un petit peu pendant la pause. On ne peut plus rien faire puisque les votes sont clos. Vous avez voté sur bfmacademy.fr. On va découvrir ensemble les résultats dans un instant. Mais avant, on va accueillir Michel Ganzin qui est du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui nous accompagne dans cette BFM Academy depuis 8 ans. 8 ans que le Crédit Agricole accompagne cette BFM Academy. On a passé les castings dans les villages by CA. Il y en avait, quand on a commencé la BFM Academy, zéro quasiment. Maintenant, il y en a plus de 40. Il y a encore des ouvertures possibles?
Bien sûr. Nous avons ouvert cette année le village Baïséa de Biarritz, la Guadeloupe. Nous avons ouvert également un village en Italie, à Padoue. Et la Caisse régionale du Crédit Agricole Val-de-France a le projet d'ouvrir également un village à Contres, dans le Loir-et-Cher.
Donc, c'est des incubateurs qui accompagnent les startups dans leur développement. Je dis souvent à Fabrice que c'est la nounou des startups, mais tous les patrons des villages font pareil. Il y a encore autant de besoins de la part des entrepreneurs, même malgré la crise financière.
Ah oui, il y a
et
toujours...
sanitaire. Financière, c'est pour après.
Sanitaire, c'est vrai. Non. Alors oui, effectivement, il y a les besoins, c'est encore important. Mais en revanche, nous arrivons aujourd'hui avec un dispositif qui est à maturité. Vous l'avez dit, on a une quarantaine de villages. Il y aura encore d'autres projets, mais déjà 40 villages. C'est un beau dispositif qui accompagne plus de 1100 startups. Sur à peu près 10 000 en France, donc vous voyez, c'est très significatif et nous sommes très heureux. Mais si vous me permettez, on ne le fait pas seul et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier, on a plus de 600 partenaires aussi nationaux et locaux qui nous accompagnent et vraiment nous les remercions d'être avec nous dans cette aventure au service de l'économie française et de ces startups qui sont notre futur.
Vous parlez des partenariats locaux. Chacun de nos candidats met l'accent, désormais, ça c'est nouveau d'ailleurs cette saison, sur l'ancrage régional, sur l'importance de recruter localement, de s'implanter, de s'intéresser à son écosystème. Vous remarquez ça aussi ?
Ben oui, puis vous l'avez vu avec la crise sanitaire, aujourd'hui on redécouvre nos régions et je pense que tous nos territoires sont importants et il faut qu'on développe l'économie sur l'ensemble de nos territoires. Il ne faut pas que ça soit juste que des grandes villes. Les grandes villes ont leur importance, elles sont le moteur de notre économie, mais il est important d'irriguer avec des start-up, avec les entreprises, l'ensemble des territoires français. Ils le méritent.
Comment vous avez trouvé notre crue 2000, notre saison 16, notre crue 2021 ?
Moi, je les ai trouvés magnifiques, je les ai trouvés vraiment combatifs, tenaces. Vous avez, franchement, j'ai un avis plus partagé avec vous. Vous avez été.
Alors, je n'ai pas demandé l'avis sur les coachs. Ils ont été affreux, bien sûr, mais on sait ce qu'on leur demande.
Exactement. Non, mais ils ont été très bien, les coachs. Et puis, donc, oui, j'ai trouvé vraiment trois candidats fabuleux. Il faut bien entendu qu'il y en ait un qui gagne, mais c'est toujours difficile. Mais s'ils sont là, il n'y a pas de hasard.
Il fallait voter sur bfmacademy.fr. Vous allez remettre dans un instant, on va vous donner l'enveloppe avec les résultats, mais là, l'huissier compte les votes. On va appeler Moussa Camara qui va remettre le trophée dans un instant avec nous. Moussa Camara, on le connaît bien sur BFM Business, association Les Déterminés. Moussa, vous habitez pas à BFM Business, mais on vous voit souvent quand même.
Ouais, souvent.
On dit que les jeunes, Moussa Camara, sont déprimés, qu'ils ont plus envie, que la crise sanitaire les a totalement leur a fait baisser les bras. Bon, là, David, vous ne faites pas vraiment partie des jeunes. Mais bon, comment vous les trouvez-vous, vos jeunes que vous accompagnez ?
Bah déjà, la crise, elle a fait en sorte que il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre. Nous, à titre d'exemple, sur l'année 2020, on a reçu plus de 1000 candidatures.
Ah oui.
Rien qu'en 2020. C'est-à-dire, cette crise, elle a permis à beaucoup de jeunes de se remettre en question, de dire, voilà, je suis dans un emploi salarié, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une passion, j'ai une idée, et c'est le moment de la développer. Et tout ça, moi, ça s'est traduit dans toutes les régions sur lesquelles on s'est développé, avec vraiment une vraie envie d'entreprendre, une volonté entrepreneuriale partout dans le territoire, cette énergie qui existe et qu'il faut accompagner aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est vrai que c'est pas évident dans un contexte de crise de se lancer, mais comme l'ont démontré les lauréats, voilà, c'est...
Les candidats,
ils ont montré toute leur détermination, leur envie, et peut-être qu'on n'est pas jeune, mais quand on est jeune entrepreneur, on a aussi besoin de soutien, de mise en relation, de mise en lumière, en avant, et c'est ce qu'on fait, nous, avec les déterminés.
Vous avez désormais un maillage national, ouais. Vous accompagnez des jeunes dans des quartiers difficiles, partout désormais en France.
Des jeunes et des moins jeunes, dans des quartiers, dans des territoires ruraux, dans des centres-villes, toutes ces des gens qui ont envie partout en France. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de villes en France. On vise d'être dans les 25 plus grandes villes de France d'ici 2024. Et l'objectif pour nous, c'est ce qu'on a réussi à faire en Île-de-France, comment on arrive à construire un réseau, un écosystème entrepreneurial et économique puissant, notamment voilà, cette dynamique, on le voit sur les territoires, elle s'apprend de plus en plus, pour permettre de créer des passerelles entre des jeunes ou des moins jeunes qui ont de l'énergie, qui ont envie, qui ont du potentiel, avec tout un écosystème bienveillant, économique, qui peuvent leur permettre d'aller plus loin.
Parce qu'on le voit dans les entreprises qui sont accompagnées également par les villages Baïsia, ouais. C'est pas toujours qu'une question d'argent. C'est aussi la bonne réponse, le bon moment, ouais. L'idée qu'on n'a pas eue.
C'est surtout de l'accompagnement, surtout de la prise en charge, de l'accompagnement du réseau, d'avoir des mentors, des gens qui sont passés par là, qui peuvent aussi apporter leur expérience aux entrepreneurs. Après, bien sûr, les moyens financiers comptent toujours, mais quand on a un projet structuré, un projet solide, on sait qu'on est bien conseillé, on est bien entouré. Après, c'est facile d'aller chercher ses premiers clients ou d'aller chercher un peu d'argent. Mais la base, c'est de l'accompagnement qui fait aussi la clé de la réussite de beaucoup d'entrepreneurs.
Merci beaucoup Moussa Camara, c'est le moment où on va découvrir les résultats, on va vous apporter l'enveloppe avec les pourcentages, vous allez nous donner les résultats, le troisième, le second, le premier, prenez l'enveloppe, Michel Ganzin, et c'est à vous, vous avez le droit au trophée que vous pourrez donner aux lauréats dans un instant. Avancez-vous un tout petit peu, Michel Ganzin. Alors, donnez-nous les résultats d'abord par pourcentage avant de nous donner les vainqueurs.
Très bien. Alors, le troisième a eu 18,4%. Le deuxième a eu 27,4%. Et le premier a eu 54,2%.
C'est donc une victoire assez large.
Une victoire assez large, effectivement.
Une victoire de qui ?
Et donc là, j'annonce le vainqueur.
C'est ça, c'est ça. Vous voulez qu'on tape un peu des pieds ou...
Et donc, le lauréat 2021 de la BFM Academy saison 16 est Moby Travel, Lucas Gebhardt.
C'est donc Lucas, un très très grand bravo à Lucas qui remporte cette saison 16. Vous pouvez lui donner son trophée. On serait dans une situation sanitaire normale. On se jetterait les uns sur les autres, bien sûr, mais la crise sanitaire nous empêche. Lucas, un très grand bravo. En deuxième position, Diagramme Technologie, Margot et David, vous arrivez en troisième position. Lucas, 54%, c'est une très très large victoire. Bravo à vous.
Merci, merci à tous nos clients qui ont voté pour nous. Nous, on est lyonnais, on est aussi du Beaujolais, donc on a un très fort ancrage local. Merci à tous pour votre soutien et pour votre aide. Et on espère qu'on va réussir à se développer comme on vous l'a dit, comme on vous l'a promis, parce que tout le monde a besoin de nous.
Merci beaucoup, Lucas. Vous allez avoir rendez-vous et il va falloir se lever très tôt. Demain, 6h45, Good Morning Business. Moussa connaît ça, il faut se lever tôt quand on a envie de passer sur les médias économiques. Vous avez rendez-vous avec Sandra Gondouin et avec Christophe Jacubizine. David et Margot, un grand bravo à vous deux de nous avoir accompagnés. Déçus, j'imagine.
Bon, non, on est là, c'est le principal. Ouais. On a entendu parler de nous et puis... Finir troisième devant un premier de cette qualité, non, on est content.
Et c'est une super aventure humaine. Et encore bravo à Moby Travel.
Bravo à vous, c'était.
David, un petit mot pour Virginie qui nous regarde depuis chez elle, puisqu'elle n'a pas pu être là physiquement. On l'embrasse.
Oui, Virginie, on a pensé à toi, on s'est échangé des petits mots. J'espère que le plus principal, le plus important, c'est que tu sois sur pied le plus rapidement possible. C'est ça qui importe avant la victoire.
À mon avis, le principal, c'était que vous soyez bon. Et ça, vous le saurez, elle va vous envoyer un texto pour vous le dire. Merci énormément à nos trois coachs, Evelyne Platnik-Cohen, The Artist Academy, Fabrice Marcella, maire du village Baïséa de Paris. Philippe, vous avez encore gagné.
Ouais. Ben, je suis très heureux pour Lucas, qu'il mérite, même si Margot et David, et je vous prie d'excuser nos petites attaques de bas étage, parce que vous aussi, vous avez...
Ah, c'est fini maintenant, on a changé. Maintenant qu'on sait qui a gagné, on aime tout le monde. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime que les gens se détestent jusqu'à la fin.
Non, mais à part vous, j'aime tout le monde.
Je ne réagirai pas et ça ne me fait rien. Philippe, bravo, cofondateur de Truffle. Vous gagnez pour la deuxième consécutive la BFM Academy saison 16, il y aura une saison 17, bien sûr, une saison 18, 19, 20, vous serez là ? Moussa Camara, vous allez m'envoyer des candidats ?
Bah bien sûr, il faut.
Un grand merci à Lucas Gebhardt qui remporte cette saison 16 de la BFM Academy. Un grand merci à eux pour leur temps, pour l'investissement. Merci au village Baïséa du Crédit Agricole qui nous accompagne depuis 8 ans dans cette aventure. Un grand merci aux équipes, à Alexandra Kopp, à Camille Bourg, à Olivier Valois, à Justine Marsloff et tous les autres qui travaillent sur ce programme le plus optimiste de la télévision et de la radio. Je vous dis à très bientôt sur BFM Business et je vous laisse avec François Sorel pour Tech & Co. We'll be right back.